c'est que cette connerie?
C'est le canut info. Ah,
je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière, c'est clair la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton vol, volet et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une machine dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est qu'à nous en faux.
Vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez tout.
Bonsoir, il est 19h.
Ça marche pas. Hein.
Ça marche pas, comment
on
ça
on dirait bien quand t'as piqué ton micro, il est quand même 19h02 minutes à l'instant.
Mais toi, tu crois qu'on t'entend vraiment?
Moi, je sais pas, je m'entends dans mes oreilles.
Moi, j'entends tout le monde.
Ouais, moi, j'entends tout le monde aussi.
Ah, on t'entend, on t'entend désormais.
C'est ma faute.
Alors, bonsoir, bonsoir. Et donc, bonsoir, c'est comme le Canu Info. Nous, on s'entend pas, mais vous nous entendez parfaitement. Et c'est tout de suite parti pour le. Phil, qu'est-ce qu'on va dire ce soir?
Eh ben, on commence par on revient sur la NAS qui avait eu à Bellecour en 2010.
Et on veut faire un retour sur la manifestation qui a eu lieu le week-end dernier, organisée par le comité Vérité et Justice pour Mehdi Bouta.
Et on va parler du 30e jour de grève au parc Hayat.
Et puis, il y a du changement à la sécurité sociale, on vous en parle aussi.
Et ensuite, on verra comment le Sénat n'aime pas, mais alors pas du tout, les Black Blocs.
On revient sur des jeunes qui portent plainte et donc qui sont au tribunal à cause d'un contrôle au faciès.
Et on vous parle de comment de moins en moins de malades psychiatriques échappent à la prison.
Puis de Georges Ibrahim Abdallah qui est emprisonné depuis 34 ans.
Et puis la gauche radicale française vire complètement à droite. On vous parlera de Mélenchon, de Lordon, de l'anticapitalisme et de leur rapport aux frontières.
Et en parlant de frontières, on passera ensuite à l'international pour prendre des nouvelles du Brésil.
On finit avec Berlin, où le mouvement Fuck Off Google est plus fort que Google lui-même.
Et si on a le temps, un petit agenda.
Attention, un tout petit peu de tuning.
Attention.
Auditrice, auditoire, radio canu, d'un moment à l'autre, un jingle peut surgir dans vos oreilles.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhônais de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est de la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève qu'on a dit à les interjoués pendant la masse du rassemblement pour le maire en Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et oui, au local, on se rappelle, mais alors c'est grosse rubrique historique parce qu'on va parler du 21 octobre 2010. Le 21 octobre 2010, pour replanter le décor, c'était donc les grands mouvements de grève contre la réforme des retraites avec des manifs monstres à Lyon tous les jeudis, tous les mardis, c'était génial, tout le monde courait de partout. Il y avait des centaines de jeunes qui se baladaient sur la place Bellecour et qui essayaient de se battre pour leur retraite ou en tout cas contre l'État et contre le système capitaliste. En tout cas, ça c'est moi qui le dis, je suis pas sûr que c'était vraiment ça qui passait dans les médias à ce moment-là, mais j'ai envie d'y croire quand même. Et à ce moment-là, c'est le moment où les forces de l'ordre, les flics, ont inventé la grande technique de la NAS. Il y avait eu sur la place Bellecour une immense NAS pendant plus de 6 heures. Il y avait eu des centaines de personnes qui étaient encerclées par les forces de l'ordre sur la place Bellecour. On pouvait pas sortir, on pouvait pas rentrer et les gens étaient vraiment dans une espèce de garde à vue à ciel ouvert. Et il y a un collectif qui, depuis cette époque, essaye de dénoncer ce qui s'était passé ce jour-là et de porter l'affaire devant la justice. Donc on peut déjà reconnaître qu'un collectif qui dure depuis le 21 octobre 2010, c'est pas rien. Et on leur dit bien joué quand même. Et ce collectif, du coup, a essayé plusieurs fois de faire reconnaître ce qui s'était passé ce jour-là et de faire reconnaître l'action des forces de l'ordre qui a été complètement quelque chose d'illégal. Et ça fait 8 ans qu'ils se battent pour rien du tout. Mais ce jeudi matin, attention, l'instruction, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt sur l'affaire et a demandé la mise en examen du directeur de la police du Rhône de l'époque, qui s'appelait Albert Doutre, et du préfet de l'époque, Jacques Géraud, au motif de privation illégale de liberté. Donc on attend de voir ce que ça pouvoir donner, mais déjà ça montre que si la réforme, la lutte contre la réforme des retraites n'a pas forcément payé, et bien certaines luttes payent quand même.
Et il y a d'autres luttes qu'on aimerait qu'elles payent vite.
Et oui, parce que samedi, il y a une centaine de personnes qui ont défilé dans Lyon pour réclamer justice pour Mehdi Bouhouta. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur Mehdi Bouhouta ? Eh bien, c'est un monsieur qui a été tué par la police le 3 septembre 2015. Alors qu'il était en permission et qu'il mangeait une pizza dans un snack, où il est allé rendre visite à un frère à lui qui travaillait, dans le but en fait d'obtenir un aménagement de peine. Et c'est du coup pour ça qu'il était sorti de prison. Et qu'il était en permission, du coup, juste pour le temps de trouver son aménagement de peine. Au moment où il sort du snack, il aperçoit la police qui le reconnaît. Il rentre dans sa voiture pour s'enfuir. Et arrivé en haut de l'endroit où de la rue où il était, les flics essayent de lui barrer la route et lui tentent de s'enfuir. Et le policier du coup tire à deux reprises et atteint Mehdi à la tête, qui meurt sur le coup. Le fonctionnaire qui a du coup buté Mehdi, lui, est toujours en service et est placé là du coup dans le procès qui avait lieu samedi, il est tout simplement juste témoin assisté, alors qu'en fait il a buté un mec, quoi. Et alors qu'il y a dans sa déposition beaucoup d'incohérences. Il dit qu'il l'a tué en tombant parce qu'il reculait, il s'imaginait qu'il y avait une barrière. Il dit qu'il était en danger, mais alors en fait il a tiré de côté, donc du coup Mehdi lui fonçait pas du tout dessus. Et en plus, les policiers l'avaient reconnu et du coup auraient très bien pu l'arrêter à un autre moment. Et en fait, ce qu'il voulait, le flic, c'était absolument arrêter Mehdi alors qu'il était en permission. Alors le flic pensait qu'il était évadé. Et du coup, la famille de Mehdi et les proches de Mehdi, depuis 2015, essayent de se battre et de reconnaître en fait la réalité du meurtre de Mehdi par la police. Et c'est pour ça qu'il y avait le procès de cette affaire-là samedi. Et le comité Vérité Justice avait organisé un cortège qui est parti du coup de la place Bellecour et qui a réuni donc une centaine de personnes et qui a été fini par un rassemblement devant le palais de justice du 5e arrondissement. Ses proches avaient demandé du coup une reconstitution des faits, ça leur a été refusé, et ils souhaitaient aussi l'audition de témoins supplémentaires qui avaient vu l'action, qui ont aussi été refusés. Et du coup, ils contestent complètement les conclusions de l'enquête l'enquête avait dit que le fonctionnaire avait tiré en état de légitime défense, alors que eux parlent d'une bavure, bien entendu. Une pétition en ligne sur change.org a recueilli aujourd'hui jusqu'à 550 signatures, mais du coup on peut toujours la signer en allant sur change.org et en tapant Vérité Justice pour Mehdi Bouhouta.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et on enchaîne avec la Sécu, parce que tout le monde l'a entendu, le budget de la Sécu sera excédentaire en 2019 de 400 millions d'euros, ce qui n'était plus arrivé depuis 2001. Et alors le gouvernement, du coup, dans la foulée, a présenté donc son projet de loi de financement de la Sécu devant l'Assemblée le 22 octobre. Et alors le gouvernement, il se félicite de cet excédent, mais c'est grâce, entre guillemets, aux autres gouvernements et réformes mises en place précédemment que cet excédent, en fait, il est possible. Et c'est surtout parce que il y a des économies qui ont été faites sur le dos de beaucoup de gens. Alors prenons la branche vieillesse, par exemple. Le recul de l'âge de départ à la retraite, et bien du coup, fait qu'il y a moins de gens à payer. dans la branche maladie, c'est les dépenses restreintes dans les hôpitaux publics qui, du coup, contribuent aussi à la dégradation des conditions de travail des soignants, qui fait que c'est possible d'avoir un excédent, mais au détriment, du coup, des personnes qui sont soignées et qui soignent. Dans la branche famille, les réformes de 2014 et de 2015 sur le congé parental n'ont pas permis d'augmenter la participation des pères, mais elles ont de fait conduit à une baisse du montant et du recours aux prestations. Du coup, en 2013, il y avait 2 milliards d'euros de prestations qui étaient versées, et en 2018, il n'y a plus qu'un seul milliard, sans que ce soit dû uniquement à la seule évolution démographique. En 2019 et en 2020, les allocations familiales et les pensions de retraite seront quasiment gelées. Elles seront revalorisées qu'à hauteur de 0,3%, alors que l'inflation sera comprise entre 1,7% et 2%. Et surtout, en fait, la loi, ce qu'elle va marquer comme rupture, c'est que depuis 1994, c'était inscrit au Code de la Sécurité sociale que l'État compensait à l'euro près toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisation de la Sécurité sociale pendant toute la durée de son application. Et en fait, cet article, il va être modifié. Donc, dès 2019, l'État, du coup, il ne va pas compenser la baisse du forfait social qui va coûter 500 millions d'euros à la Sécu, ni l'exonération de cotisation sur les heures supplémentaires. Et ainsi, l'État, il va faire une économie qui est estimée à 2 milliards d'euros. Depuis les années 90, les sources de financement de la Sécu, elles se sont diversifiées. Alors, historiquement, la Sécu, c'était une caisse autonome qui avait ses recettes propres, qui étaient les cotisations sociales. Sauf que depuis 3 décennies, les gouvernements successifs ont renoncé à augmenter les cotisations sociales. Et donc leur part, qui des cotisations sociales, donc ça correspond à 55% du financement de la Sécu en 2017, elles vont encore diminuer dans les années à venir. Et parallèlement, la CSG, qui a été créée en 1991, mais aussi une multitude d'impôts et de taxes affectées, qui s'appellent les ITAF, elles en constituent une part croissante, donc plus de 30%. Sauf que si la CSG, elle suit l'évolution de la masse salariale, parce qu'elle est indiquée sur les indexée sur les salaires, et en fait, ce n'est pas le cas des autres taxes, comme la taxe sur le tabac, les casinos ou l'alcool. Et toutes ces autres taxes, en fait, elles peuvent être réaffectées d'une année sur l'autre entre les branches de la Sécu ou vers l'État, du coup, qui n'aura rien à voir avec la Sécu. Et donc, elles peuvent voir leur taux augmenter moins vite aussi que les besoins auxquels elles sont censées répondre. Donc, autant de moyens pour l'État de décider discrètement et au fil de l'eau des recettes de la Sécu, dont les besoins de financement augmentent du fait de vieillissement de la population, du poids croissant des maladies chroniques ou des progrès de la médecine. Donc, en fait, il n'y a absolument pas de quoi se réjouir de cet excédent.
Et excédent, il y en a aussi dans le parc d'hôtels de luxe. Et ces excédents, pour autant, ne sont pas toujours reversés aux salariés de ces hôtels. Et donc, c'est notamment pour ça que depuis... Alors, mercredi, ça faisait 30 jours, mais donc là, on est vendredi, ça fait 32 jours que les salariés du parc Hyatt, et notamment, en fait, les personnes qui font le ménage au parc Hyatt, sont en grève. Et donc elles sont en grève tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'elles sont employées par un sous-traitant STN qui est prestataire du coup du parc Hayak Vendôme et elles demandent du coup à être intégrées dans les effectifs des salariés de l'hôtel parce que du coup l'idée d'un sous-traitant normalement c'est de proposer de venir en fait faire le ménage du coup pour les remplacements, pour les moments où il y a un surcroît d'activité et compagnie, alors que là à l'inverse du coup c'est des gens qui travaillent, c'est des personnes qui travaillent tout le temps pour cet hôtel et du coup elles demandent à être intégrées dans les effectifs de l'hôtel et pour les personnes qui sont déjà intégrées aux effectifs de l'hôtel, elles demandent une augmentation de 3 euros de l'heure. Donc par exemple en 2017 du coup c'est pourquoi elles se permettent de demander ça, c'est parce que l'hôtel 5 étoiles a fait 8 millions d'euros de bénéfices, là où les personnes qui font le ménage gagnent à peine le SMIC. Et pourtant, le président du groupe, alors je dis son petit nom, il s'appelle Michel Moreau, pour lui, c'est pas du tout la question. Il pense que lui, l'intégration, c'est pas du tout un sujet et que passer par un sous-traitant n'est pas moins cher et que du coup, c'est juste une justification de modèle économique qui lui permet faire marcher son hôtel et c'est pas du tout, en fait, il n'utilise pas du tout de sous-traitant selon lui pour pouvoir sous-payer et esclavagiser les personnes qui travaillent pour lui. Mais au-delà de tenir ce discours complètement dégueulasse dans les médias face à la grève, eh ben, ils sont passés aussi par l'intimidation physique et à refuser toute négociation et surtout empêcher les personnes de faire grève. Donc d'abord, au tout début de la grève, le 12 octobre, c'est rien que moins que la sécurité privée de l'hôtel qui s'en est prise directement aux grévistes pour les empêcher de faire un piquet de grève. Il y a deux grévistes même qui ont été poussés à terre et qui ont été emmenés par les pompiers hospitalisés pendant plusieurs jours. Donc c'est quand même pas n'importe quoi, quand même une sécurité privée d'un hôtel qui défonce ses propres salariés. Mais quand la sécurité privée ne vient pas, et ben c'est les flics, parce que du coup mercredi il y avait un rassemblement devant l'hôtel pour soutenir les grévistes, et il y a un certain nombre de voitures de police qui ont débarqué, et les flics se sont mis à saisir les mégaphones, les tambours et compagnie pour empêcher du coup le rassemblement d'avoir lieu, ce qui a donné une résistance importante de la part des grévistes, et l'une d'entre elles a échappé de peu à l'interpellation, mais finalement face au groupe et face du coup à la résistance de toutes les grévistes, et ben les flics sont partis, et c'est pas la première fois en fait que les flics interviennent sur cette grève, parce qu'il y a trois fois déjà où ils ont nassé le piquet de grève. En fait, ils ont empêché les grévistes de se rendre sur leur piquet de grève et du coup de venir manifester devant leur lieu de travail. Heureusement, et ben les salariés du parc Hyatt peuvent compter sur la solidarité et l'exemple et le soutien d'autres grèves victorieuses dans le secteur du nettoyage, avec sur la présence d'Epiquet, des salariés d'Honnet et de l'Holiday Inn, qui du coup ont mené des grèves victorieuses l'année dernière. Et du coup, il y a eu une dernière victoire justement pour l'Holiday Inn, qui du coup, l'Holiday Inn, c'est un long conflit en fait de 111 jours qui a débouché en fait du coup sur une large victoire des revendications des grévistes. Et il restait encore en suspens en fait la question de la fin de la sous-traitance, où du coup, bah, justement, les salariés de l'Holiday ont réussi à obtenir ce que demandaient les salariés du parc Hyatt, c'est-à-dire la fin de la sous-traitance et l'internalisation des femmes de chambre et des hommes de chambre a priori et des plongeurs. Donc du coup tous les salariés du sous-traitant ont été intégrés dans le personnel de l'hôtel, et du coup on espère que les salariés du parc Hyatt obtiendront gain de cause, qui réussiront à monter à mener leur grève comme l'ont réussi celles et ceux d'Honnet et de l'Holiday Inn. Et alors, si jamais on veut les soutenir, et il y a bien entendu une caisse de grève qui se trouve sur le pot commun, et alors ça s'appelle soutien aux grévistes, et je vous le donne en mille, de l'hôtel parc Hyatt et Vendôme. Et du coup, on leur souhaite bonne chance et on espère vous donner plein de nouvelles. Mais il y a d'autres personnes qui sont en lutte, notamment des personnes qui luttent contre les contrôles aux faciès. Et non, pas du tout. Il y a des personnes qui luttent dans les Black Blocs et le Sénat les aime pas, je crois.
C'est bien ça, parce que le Sénat, il a voté en première lecture mardi 23 octobre une proposition de loi déposée par Bruno Retailleau et plusieurs sénateurs des Républicains pour lutter contre les violences dans les manifestations. Donc c'est une proposition de loi qui a été votée par les sénateurs LR centristes indépendants. Et par contre, les sénateurs du PS, du CRCE et de la République En Marche, pardon, ont voté contre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, plus que par les collaborateurs de Macron qui se camouflent en flics et tabassent les manifestants et manifestantes, la droite sénatoriale a apparemment été perturbée beaucoup plus par les méchants Black Blocs qui ont causé des dégradations au mobilier urbain lors de la manifestation parisienne du 1er mai dernier. Et en fait, tellement perturbée que M. Retailleau, qui a l'origine de cette proposition de loi, il dit, je cite, « Bien davantage que des casseurs de vitrines, il s'agit en fait de briseurs de République. Eh bien, la République doit briser ses groupes. Aujourd'hui, la loi est trop faible. » Voilà, c'est ça l'idée à la base de cette super proposition de loi. Du coup, qu'est-ce que contient cette proposition de loi? En général, un gros paquet de restrictions de liberté en manifestation. Du coup, d'une part, cette proposition de loi permet de créer des périmètres dans les manifestations à l'entrée desquels les policiers pourront fouiller les manifestants, genre les sacs des manifestants et les personnes manifestantes, pendant les 6 heures qui précèdent une manifestation jusqu'à sa dispersion dans un périmètre délimité. Ce dispositif nous rappelle les périmètres de sécurité dans les zones exposées à des risques terroristes mis en place par la loi d'octobre 2017. En plus, les sénateurs et sénatrices proposent l'existence d'un fichier national des personnes interdites de manifestation. Le texte, d'une part, donne au préfet le pouvoir à titre préventif d'interdire à une personne de manifester si elle représente une menace pour l'ordre public, alors qu'actuellement, c'est le seul pouvoir judiciaire qui peut prononcer des interdictions individuelles de manifester. Et en plus, cette interdiction elle sera intégrée à un fichier national regroupant toutes les personnes interdites de manifestation. Et après, le texte propose de transformer l'infraction de dissimulation volontaire du visage dans une manifestation en un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Du coup, par exemple, le fait de porter une cagoule, bien évidemment. Sachant que pour l'instant, le port d'une cagoule représente une contravention qui est passible de 1 500 euros d'amende. Du coup, on passerait de 1 500 euros d'amende, ce qui est déjà complètement abusé, à 15 000 euros d'amende. Du coup, une multiplication x 10. Voilà. Et le texte élargit aussi la sanction du port d'armes dans une manifestation à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Sachant que les armes, ça peut être des fusées d'artifice et du matériel pyrotechnique. Voilà. Du coup, ça a été voté au Sénat. Le gouvernement, il n'est pas tout à fait complètement fan, mais ils disent que ça peut être l'occasion d'avoir un échange technique. Voilà, super intéressant. Et du coup, il y aura un groupe de travail commun au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur qui rendra ses conclusions le 15 janvier. Entre-temps, pour nous, cette proposition, c'est bien évidemment une atteinte énorme à la liberté de manifester, mais c'est aussi une tentative de pénaliser les militants et les militantes, de nier la valeur politique des actes qu'on peut appeler de dégradation de mobilier urbain lors de manifestations, et bref, de réduire l'anticapitalisme à un problème d'ordre public. Voilà.
Et bon sacré projet du Sénat. Alors, moi, je vais vous parler de trois jeunes qui poursuivent l'État au TGI de Paris parce qu'ils estiment avoir subi un contrôle au faciès en mars 2017 lors d'un voyage scolaire. Alors, en descendant d'un train, les trois élèves se font arrêter par la police. Donc, ils étaient au milieu de leur groupe avec les autres élèves. Et donc, malgré l'intervention de leur professeur, eh ben, les flics ne veulent rien entendre. Alors, le contrôle s'accompagne de tutoiements, palpations de sécurité, fouilles des valises. La professeure est indignée et décide d'intervenir avec les jeunes et de saisir la justice. Et donc c'est ainsi qu'une audience a lieu lundi dernier. C'est pas la première fois que l'État est poursuivi pour discrimination et en novembre 2016, il avait été condamné pour faute lourde pour des contrôles d'identité discriminatoires, mais sans réel changement par la suite. Alors pendant l'audience, il y a un des flics responsables du contrôle qui justifie en mettant en avant le contexte actuel et faisant face à plusieurs actes de terrorisme sur la capitale et la sensibilité du trafic de stupéfiants sur le secteur Thalys. Alors il n'explique pas le lien direct entre ça et les jeunes contrôlés. Et l'avocat de la défense, lui par contre, rappelle que les jeunes qui sont perçus comme noirs et arabes ont respectivement 8 et 6 fois plus de chances d'être contrôlés que les personnes blanches. Et donc l'avocat aussi a récolté pas mal de témoignages des autres élèves qui étaient présents et qui ont vu la scène. Sauf que le proc, lui, il estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour prouver la discrimination et qu'il faut rejeter les demandes en se basant sur la présomption de légalité des agents publics. Et la remettre en cause, ce serait saper l'état de droit. Donc c'est le proc qui dit ça. Ce qui est rappelé donc, pendant le procès, c'est que c'est aussi l'absence de moyens pour faire remonter ces contrôles au faciès. Les flics ne portaient pas de caméras piétons, qui sont censées prévenir ce genre de comportement. Et l'avocat n'a pas pu avoir accès aux vidéos, aux caméras de surveillance ou aux appels radio des flics, parce que tout a été supprimé dans le délai légal. Alors, du coup, il y a une des propositions, justement, qui existent pour diminuer ces contrôles au faciès. Et une de ces propositions, c'est justement d'instaurer un récépissé lors des contrôles d'identité. Mais à chaque fois qu'il y a eu des propositions, elles ont toujours été rejetées avec différents arguments. Alors, j'ai plus la date, mais il y a une fois où ça a été proposé et les amendements avaient été refusés au titre de l'article 40 de la Constitution. Et donc, ce qui voulait dire que l'achat de carnets et de stylos coûterait trop cher pour mettre en place cette mesure. Et oui, le ministère de l'Intérieur a un budget très réduit. Et plus récemment, donc en 2016, il y avait eu des débats de nouveau autour de la mise en place de récépissés. Sauf que ces débats avaient vite été clos, en mettant en avant l'absence de discrimination, parce que c'est interdit dans la loi, donc ça ne peut pas exister. Donc les flics ne peuvent pas discriminer les autres.
Et les flics, enfin, donc c'était Cazeneuve qui avait mis en avant le fait que les flics défendaient les Français des attaques terroristes qui mettaient leur vie en danger, et donc on ne pouvait pas les suspecter de mal faire leur travail, ce serait insultant pour eux, et mal les remercier. Alors pourtant à New York, ça a été mis en place, et le nombre de contrôles d'identité a chuté de 98% entre 2011 et 2015, suite à la mise en place donc.
Oui, mais ils ne pensent pas à leur empreinte écologique, parce qu'avec tout le papier que ça a dû bouffer...
Bah, c'est qu'ils doivent avoir du fric aussi à New York, hein, pour se payer des bics et des du papier. Et donc voilà, bah, s'il y avait des tels récépissés, ça éviterait à des milliers de personnes d'être humiliées, provoquées, violentées par les flics, ou même de devoir les fuir au risque de perdre leur vie, comme bah, Ziad et Bouna à Dama, ou plus proche, il y avait eu Joël aussi à Vienne. Et on ne sait pas, bah, j'ai pas eu la date du rendu du procès, alors on pense peut-être pas que ça va évoluer, mais au moins ça permettra de médiatiser un peu les contrôles aux faciès.
Merci. Alors maintenant, on va parler des personnes psychiatrisées en prison. Contrairement aux idées reçues, environ 4 fois moins de personnes sont jugées pénalement irresponsables qu'il y a 30 ans. C'est une enquête d'Europe 1 qui a enquêté sur cette évolution. L'enquête parle de Moussa, c'est un jeune qui avait été interpellé en 2013 quand il avait 23 ans. Il se souvenait de rien au moment de son interpellation. Quelques jours plus tôt, il venait de donner 27 coups de couteau mortels à un parfait inconnu, père de famille de 50 ans, dans une station RER dans l'Essonne. La vidéosurveillance, son ADN sur le col de la victime, du sang sur les chaussures, toutes les preuves l'accablent. Et quand il a regardé la vidéo, il s'est complètement effondré. Ça a été un choc pour lui, un choc terrible. Il s'est mis à pleurer en disant qu'il avait tué quelqu'un gratuitement. Et devant la juge d'instruction, le mis en examen explique qu'à cette période-là, depuis un moment, il se sentait très très mal, il entendait des voix. Plusieurs proches ont confirmé qu'il venait de passer un séjour à l'hôpital psychiatrique, qu'il allait toujours mal à sa sortie, qu'il l'avait confiné dans un appartement, puis qu'il s'était échappé le jour des faits dans une bouffée paranoïaque. Et pourtant, le jeune en question, comme n'importe quel judiciable, va être envoyé devant les assises pour meurtre. Et son procès se tiendra en mars 2019. Dans son dossier, il y a eu 3 expertises psychiatriques qui ont abouti toutes à des conclusions complètement différentes. Donc la première a conclu l'abolition totale de son discernement. La deuxième dit que son discernement était largement altéré, mais pas totalement. Et la dernière, qui est censée les départager, a confirmé la dangerosité du sujet, mais pas sa schizophrénie. Du coup, elle le déclare responsable pénalement, mais pas curable. Donc pour l'avocate, la place de Moussa n'est pas du tout ni aux assises ni en prison. Elle explique qu'en ce moment, du coup, il est en prison, mais il tourne en promenade tout seul. Il n'y a personne qui est en cellule avec lui parce qu'il est censé être trop dangereux. Il n'a pas accès à la scolarité, il n'a pas accès au travail parce qu'il n'a pas le droit d'aller à l'atelier parce qu'il est censé être trop dangereux. Du coup, il n'y a rien du tout qui peut être mis en place quand il est en détention alors qu'il n'a que 23 ans. Donc les cas comme ça se multiplient. Dans un rapport de 3 chercheuses sur le sujet, il y a une étude qui a été publiée en 2016. Il disait que le nombre d'irresponsabilités pénales déclarées a été divisé par plus de 4 en 20 ans. Pourtant, les professionnels de la justice ne sont pas confrontés à moins de malades psychiatriques. Et il y a donc de moins en moins d'expertises qui concluent à une abolition totale du discernement. Alors que dans les années 50, les experts tenaient vraiment au principe d'irresponsabilité et faisaient beaucoup d'investigations autour de l'expertise pour être bien sûr qu'ils n'étaient pas face à un cas qui présentait une maladie psychotique. C'est ce qu'explique Caroline Protaïs, une sociologue. Et maintenant, ils tiennent beaucoup moins au principe des responsabilités. Les expertises sont moins poussées dans ce sens. Une des raisons, c'est que les victimes poussent pour avoir des vrais procès et ne comprennent pas vraiment cette histoire de maladie mentale. Et c'est pour cela qu'il y a eu des nouvelles audiences qui ont été créées en 2008, donc devant la chambre d'instruction en présence des victimes, où elles n'ont pas pour but de décider d'une peine, mais d'exposer les raisons de l'irresponsabilité pénale et d'imposer des mesures de soins comme une hospitalisation. Voilà, donc la cour d'appel de Lyon, par exemple, va se prononcer jeudi sur le cas d'un homme qui a tué un retraité de 4 coups de couteau. Et on va voir si ces procédures qui sont encore méconnues peuvent changer un peu la donne. Mais en attendant, il y a un détenu français sur 3 qui souffre d'une pathologie psychiatrique plus ou moins importante et parfois développée au sein même de la prison.
Eh bien, prison toujours, et je vais vous parler de Georges Ibrahim Abdallah, parce que le 24 octobre 1984, il était arrêté à Lyon. Et donc, c'était il y a 34 ans, et depuis, Georges Ibrahim Abdallah est toujours en prison. Et il est considéré comme le plus ancien prisonnier politique d'Europe. Alors, Georges Ibrahim Abdallah, il est né au Liban, et il a adhéré au Front Populaire pour la Libération de la Palestine, et au FARL, qui est les fractions armées révolutionnaires libanaises. Donc en 82, il y a un responsable du Mossad et un colonel états-unien qui ont été assassinés à Paris. Alors, à cette époque-là, Georges Ibrahim Abdallah était aussi à Paris. Et donc, lorsqu'il a été arrêté en 84, au début, donc, c'était seulement pour détention de vrais faux papiers d'identité, puisqu'un passeport lui avait été délivré par les autorités algériennes. Alors, à l'époque, l'État français s'engage auprès du gouvernement algérien de le libérer rapidement. En juillet 86, il est condamné à 4 ans de prison ferme pour détention d'armes et d'explosifs. Sauf qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de manifestations, et notamment des attentats, pour demander la libération en fait, de Georges Ibrahim Abdallah et puis de 2 autres prisonniers. Et donc, en mars 87, Georges Abdallah il est jugé dans le cadre du meurtre de l'Israélien et de l'États-Unien, après la soi-disant découverte de l'arme du crime dans un appartement loué par Georges Abdallah. Et donc, dans ce procès, il y a les États-Unis qui se portent partie civile et qui vont garder un œil jusqu'à maintenant, en fait, sur Georges Abdallah et qui vont faire des pressions sur le gouvernement français bien longtemps après. Alors, en mars 87, il est condamné à perpétuité. Depuis 1999, Georges Abdallah est libérable. Il a fait de nombreuses demandes de liberté conditionnelles qui n'ont jamais été acceptées. Ah, par exemple, en 2003, pourtant, il y avait eu la cour d'appel de Pau qui reconnaissait le projet d'insertion, son projet d'insertion du coup au Liban et son bon comportement en prison. Et donc, elle avait estimé qu'il était libérable, enfin qu'ils allaient le libérer. Sauf qu'il y a eu appel du parquet et que la juridiction nationale de la libération conditionnelle a infirmé la décision sur le motif que la juridiction régionale, donc la cour d'appel, n'a voulu tenir aucun compte de l'impact susceptible d'être provoqué en France, aux États-Unis et en Israël par la libération de ce condamné, et ce, alors même que la situation au Proche-Orient est particulièrement tendue. L'ambassade des États-Unis fait pression contre la libération de Georges Abdallah en 2007 aussi, ce qui a été soulevé par son avocat qui était Jacques Vergès. À Vergès, il cite le State Department. Le gouvernement des États-Unis exprime sa ferme opposition quant à l'éventualité d'une mise en liberté conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah, pouvant résulter de la procédure à venir devant le tribunal de grande instance de Paris. Ce qui avait été confirmé aussi par la direction de sûreté territoriale, qui estimait aussi ne pas vouloir froisser en fait les diplomates américains et israéliens. Il y a aussi d'autres pressions de la CIA qui ont été faites sur le gouvernement français et qui ont fait un chantage en fait diplomatique. Tout ça pour garder encore Georges Abdallah enfermé. En 2013, Georges Abdallah devait être aussi libéré et expulsé dans la foulée au Liban, mais Valls s'y est opposé. Ce qui fait donc que depuis mercredi dernier, il est enfermé depuis 34 ans et il est actuellement à la prison de Lannemezan. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'infos et savoir comment nous soutenir, vous pouvez aller voir le site internet libéronsgeorges.samizdat.net.
Mauvaise nouvelle, toujours, on change complètement de sujet, mais certains d'entre vous ont peut-être remarqué qu'actuellement, les discours d'extrême droite, c'est-à-dire la logorée raciste, devient un peu permanente, et que malgré nous, elle gagne aussi des camarades, notamment on la voit pas mal surgir actuellement sur des questions de lutte contre l'homophobie, et puis on la voit aussi survenir, hein, cette rhétorique d'extrême droite, dans les propos de personnalités dites de gauche radicale. Alors là, je vais revenir sur une position, qui est un coup de gueule, qui est celle de notre camarade Olivier Siran, suite aux réactions de quelques personnalités, dont Frédéric Lordon et Jean-Luc Mélenchon, des personnalités associées à la gauche radicale, qui après que les journaux Regard, Politis et Mediapart aient publié un appel, qualifié de manifeste pour l'accueil des migrants, et bien ils ont, Jean-Luc Mélenchon, Frédéric Lordon et d'autres, cru important de nous rappeler que avant de s'attaquer au capitalisme ou à l'Union européenne, il fallait surtout faire ça d'abord. Enfin, pardon. Plutôt de rappeler qu'il fallait s'attaquer au capitalisme ou à l'Union européenne avant de prétendre s'intéresser aux frontières et au sort des exilés qui meurent à ces frontières. Alors, du coup, ça m'agace particulièrement et je rejoins beaucoup le camarade Olivier Siron, donc je vais vous lire ce qu'il a pu écrire. Alors, ce serait bien qu'un de ces jours, Lordon ou Mélenchon ou tout autre représentant de cette gauche tellement anticapitaliste qu'elle veut d'abord abattre la finance et puis organiser la sortie de l'euro avant de condescendre à défendre le droit des migrants à ne pas crever, noyés ou fracassés au pied de nos forteresses. Eh bien, ce serait bien donc qu'il nous explique ce qu'il convient de faire en attendant. Puisqu'il nous serine, hein, c'est des termes qu'ils utilisent, que militer pour la liberté de circulation serait un truc de bobo, niaiseux, de gauche morale, qu'il nous explique donc la bonne marche à suivre pour tenir leurs frontières. Car le problème avec les frontières, c'est qu'il faut choisir soit on est contre, soit on est pour. En fait, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Et quand on est pour, comme manifestement M. Mélenchon et Lordon, on est forcément pour le système de surveillance qui va avec et qui, dans le climat qu'on connaît actuellement, ne peut être autre chose qu'un appareil de flicage de plus en plus furieux et homicide. Alors, au nom de l'anticapitalisme, faut-il se résoudre au barbelé concertina de Mélilla qui tranche les chairs jusqu'à l'os, au coup de matraque et au passage à tabac qui attendent les migrants sur la route des Balkans, aux destructions tentes par la police française, aux confiscations de duvets, aux chasses à l'homme et aux centres de rétention remplis à ras-bord où se multiplient les tentatives de suicide? Au nom de l'anticapitalisme, faut-il s'accommoder de l'externalisation du gardiennage de nos frontières à des régimes dictatoriaux sous perfusion européenne comme la Libye, le Niger ou le Soudan? Peut-être faut-il attendre que la 6ème République soit proclamée à Tripoli pour songer à combattre la politique de sous-traitance des violences policières bien de chez nous à des camps de torture qui épouvantent jusqu'au HCR et à l'ONU? Au nom de l'anticapitalisme, faut-il accepter la militarisation de Frontex et les nouveaux systèmes de surveillance satellitaire commandés au groupe Airbus par l'Union européenne afin de traquer les embarcations de survivants méditerranéens? Sans doute est-ce également en vertu d'un anticapitalisme farouche qu'il faut aller parader au prochain salon du Bourget et se faire prendre en photo devant les dernières créations de notre merveilleuse industrie militaro-sécuritaire, comme Jean-Luc Mélenchon en a pris l'habitude. Nous, on dit qu'il faut arrêter avec tout ça et donc abattre les frontières qui tuent. Ouais, parfaitement, on dit qu'il faut abattre les frontières. Vous, c'est quoi votre idée? Parce que vous êtes à inventer une façon de gauche de justifier l'hostilité aux migrantes et aux migrants. Dites-nous donc, messieurs de la gauche radicale, à quoi pourrait ressembler une frontière qui soit autre chose qu'un monument européen à la xénophobie la plus ordurière? Vous voulez quoi? Des barbelés un peu moins coupants, des polices aux frontières un peu moins brutales, des noyades en mer un peu moins massives? Et je parle pas du jour, imminent, n'en doutant pas, ou l'oligarchie, puisque c'est le terme que vous plaisez à utiliser, aura été réduite en cendres par une marée d'insoumis braillant la Marseillaise. Mais d'ici là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Alors on veut bien admettre que parmi les signataires d'un certain nombre d'appels, dont celui de Politis, Regard et de Mediapart, il y a des mous du genou et même quelques beaux spécimens d'hypocrites. Mais le texte ne fait qu'énoncer le minimum syndical en termes de solidarité internationaliste. L'internationalisme, vous savez, ce vieil héritage du mouvement ouvrier. Alors vu le contexte, c'est déjà pas si mal. Alors venir arguer de son anticapitalisme tonitruant pour crier sur tous les toits qu'on refuse de le signer, bah, c'est assez problématique. Et puis c'est sûrement ça, évidemment, comme vous le pensez, qui va précipiter l'effondrement de l'oligarchie, n'est-ce pas? Donc Macron et Merkel tremblent déjà devant tous ces propos des Mélenchon et des Lordon de pacotille. Ouais, moi je rajoute au texte de Siron qu'ils aillent se faire foutre.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et non, ouais, ça marche très bien.
Okay. Ça marche, hein?
Ouais, ça marche.
Ok. Je veux parler?
Et bah, ouais, du coup, est-ce que tu veux nous expliquer un peu déjà la situation un peu générale et puis pour commencer, quoi?
Bah, en fait, c'est c'est très compliqué d'expliquer. En fait, je pense que depuis 2013, c'est très difficile d'expliquer ce qui se passe au Brésil. En fait, genre, je pense qu'il y a tellement d'événements que, franchement, genre, c'est compliqué parce que, genre, franchement, moi, j'ai eu un peu d'espoir en 2013. Je pensais que ça allait être un truc sympa. Et ça a un peu parti dans tous les sens. Et il n'y a aucun groupe de gauche qui a bien joué avec les mouvements populaires. Il n'y a pas eu une récupération, une instruction. J'ai eu l'impression que depuis les manifs de 2013, tout part dans tous les sens, au Brésil. Et même les gens, ils ont l'impression que, même à droite, il y a les partis de droite classiques, le PSDB, qui s'excusaient du fait qu'ils ont questionné le résultat des dernières élections, parce que tout le bordel de 2014, après les élections de 2014, a commencé parce que ils n'étaient pas d'accord avec les résultats, vu que le PT, il a passé le travail à gagner de très peu, genre c'était genre 52 millions de Brésiliens ont voté pour les partis des travailleurs et 50 millions ont voté pour la gauche, la droite classique, le PSDB. Donc on a eu les coups d'État, on a eu tout ça, et là, comme réponse populaire, je pense que personne croyait vraiment, genre c'est un peu un espèce de Trump, on ne croyait pas vraiment que ça allait arriver et ça arrive hyper fort. C'est le phénomène Bolsonaro qui tout le monde, genre, en tout cas 47% des Brésiliens au premier tour ont voté pour lui. Il y a eu des grosses manifestations un mois, trois semaines avant, une semaine, plusieurs manifestations différentes, mais avant les élections, avant le premier tour, pour parler du fait que oui, c'est un misogyne, c'est un raciste, c'est l'extrême droite brésilienne avec toute la morale religieuse qu'on ne veut pas, vu qu'on essaye d'être un État laïque, on essaye. Donc, il y a eu plusieurs manifestations, donc je me suis dit que ça serait être le moment où de montrer, des gens ils sont dans la rue pour montrer qu'ils ne veulent pas se mettre. Et une semaine après, le mec, il gagne 10 points de plus dans les sondages. Mmh. Et parce qu'en fait, avant, il a eu un coup de couteau. Il y a beaucoup de faits, en fait. Mais bon, il a eu un... ouais, c'est le Brésil. Le Brésil, c'est pas un pays pour les débutants. C'est un pays... Mais en fait, il était comme tout le monde était un peu à 20%. Il a eu un coup de couteau, alors on ne sait pas encore qui c'est ce mec qui l'a donné un coup de couteau. Il a monté dans le sondage après son coup de couteau. Après, il y a eu des manifestations énormes contre lui et il a monté encore dans le sondage. Donc après, on a eu les premiers tours et 47% de Brésiliens ont voté de vote. De votre valise de Brésil sont pour lui. Donc, quoi faire? Je pense que tout le monde est un peu désespéré en ce moment au Brésil, en tout cas les gens qui ont un peu de sens. Parce qu'en fait, c'est très difficile de dire que ah, c'est des fachos, c'est des gens du peuple qu'on arrache. Et puis il y a beaucoup de gens des favelas, beaucoup de pauvres qui votent pour lui. C'est aussi une classe moyenne, une élite fâchée contre le PD, genre. Mm-hmm. Mais on ne peut pas dire que c'est qui les riches, parce qu'il y a des gens qui pensent que, ah oui, ça c'est des riches qui sont contre le PD, mais ce n'est pas que ça, il y a beaucoup de pauvres révoltés. Révoltés, mais révoltés sans savoir bien où mettre sa rage, parce que je pense que voter pour ce mec, c'est pas bien savoir où mettre sa rage. Mais en même temps, on a eu aussi une chose que la gauche n'a pas su quoi faire, ce sont les campagnes par WhatsApp. Et ça, franchement, là, il y a encore de Bolsonaro, il est suspect d'avoir fait de la corruption, parce qu'il y a pas mal de ces dépenses de campagne qui sont de l'argent, on ne sait pas encore d'où ça vient cet argent, mais qui était utilisé pour payer des entreprises pour envoyer des messages sur WhatsApp. Des messages fausse. Donc, il y a des photos maintenant, on ressort ça, des photos de sportifs qui rencontrent les mecs qui ont géré la campagne de Trump. Donc, ça, je pense que la gauche, elle n'a pas su bien faire la communication. La gauche, elle n'a pas su faire beaucoup de choses. Hein. C'est un moment aussi que c'est hyper compliqué parce que. Déjà, je pense que. Bon, je sais pas. Je pense qu'on peut parler encore une fois après dimanche, parce que ce dimanche, c'est les phases d'élection. Donc, on peut parler de ça après, mais je pense que c'était un peu. Croire que. Dire Haddad, c'est Lula. Et je pense que la gauche a pensé que ça allait être facile, quoi. Et les gens, ah oui, Lula, il arrive à élire n'importe qui. Donc, et même s'il est en prison, on peut parler à son nom et il va réussir à aider quelqu'un. Et je pense que les stratégies de communication n'étaient pas du tout bonnes. Et on n'a pas pris en compte le fait que, oui, la campagne de l'extrême droite, elle est complètement basée sur des fake news sous WhatsApp. Mais beaucoup, genre. Et parce que on ne comprend pas comment ça se fait qu'un mec qui a un plan de gouvernement de très peu de pages, il a fait un plan de gouvernement de genre 40 pages, pour que ça soit un peu plus grand, il a mis des pages de PowerPoint pour que ça a l'air plus long. Mm-hmm. Mais en fait, c'est hyper court son programme. Il va pas au débat, genre au premier tour il est allé à un seul débat, il parle pas, il envoie que des fake news et il arrive à 47% dans le sondage. Genre. Donc il y a quelque chose que la gauche et le Parti des travailleurs ne sait pas parler au peuple plus. Genre, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'avant on votait pour le Parti des travailleurs, qu'on en voulait des changements. Et là, quand on veut du changement, on vote pour un mec qui dit qu'il va donner des armes à tout le monde et qu'on va pouvoir, les citoyens de bien, il va être bien parce qu'on va mettre tout le monde en prison, ou on va tuer les champs et tout ça.
Parce que du coup, moi de ce que j'ai pu voir un petit peu, c'est qu'il y a vraiment, ça libère un peu des groupes et des façons de faire qu'on avait peut-être plus trop vu depuis longtemps, quoi, où il y a vraiment j'ai vu des meufs qui se font violer et après graver des croix gammées sur les côtes, et eux ils disent non, c'est un signe indien, machin, enfin, et tu vois, il y a vraiment un truc de est-ce que c'est vraiment ça, en fait, est-ce que c'est vraiment le mec, c'est vraiment l'extrême droite la plus crade et la plus nazie qui puisse exister, ou est-ce que c'est une image...
Je pense que le Brésil, c'est un pays très violent, et je pense que tout le temps, ça a toujours eu lieu. Donc, depuis 1500, c'est un pays violent. Par contre, peut-être qu'à ce moment-là, la violence, elle est en train de toucher plus de monde hors de favela. C'est comme si... C'est comme à Rio, en fait. À Rio, t'as une grande montagne qui divise le quartier riche et les favelas. Donc, quand la violence elle traverse la montagne, tout le monde est très préoccupé. Par contre, c'est vrai que... Donc, je pense qu'il y a toujours beaucoup de violence. Genre, j'ai pas mal d'amis qui disent que, en fait, les violences contre le trans, les personnes trans, les homos, les lesbiennes... les Noirs au Brésil a toujours eu lieu. Par contre, c'est vrai que là, les violences, elles sont faites et au nom de peut-être notre président. Tu vois. Mm-hmm. Et le truc, c'est que il y a toujours eu des violences. C'est un peu violent, mais maintenant, elles sont un peu comme si là, le discours du président, il laisse les gens pouvoir faire ça, genre. Donc, peut-être c'est plus grave vu que, quand même, on peut pas. Par exemple, et quand Bolsonaro il a eu son coup de couteau, et tout le monde, tous les candidats, tous ses adversaires, ils se sont allés dire c'est pas possible. Même si Bolsonaro, c'est un mec qui parle tout le temps de la violence, d'être violent, que la solution c'est les armes, tout ça, tout le monde a dit que, tu vois, c'est pas possible qu'on dise que les solutions c'est les armes parce que. Même lui, il prend un coup de couteau. Mais lui, quand on le pose la question, qu'est-ce qu'il pense du fait que tous ces électeurs sont en train de taper des gens, de tuer des gens, parce qu'il y a pas mal de gens, il y a 3 personnes là qui se sont tuées, tu vois, là, à cause des élections, tuées carrément et tuées avec des cris Bolsonaro. Et c'est quand même, et lui, il dit rien, il dit que ah, je suis pas responsable, c'est pas moi qui a dit, je ne sais pas. Donc il prend aucune responsabilité dans son discours. Il parle pas du fait que oui, peut-être que mon discours violent fait que les gens soient violents aussi. Et il y a plein de petites et des grandes violences en ce moment liées à lui. Parce qu'il y a pas mal de gens qui entendent des trucs horribles dans la rue, qui se font taper. Parce que quand Bolsonaro va gagner, j'aurai une arme et toi tu vas pas t'habiller comme ça devant moi. Genre, ça, il y a pas mal de. Et l'histoire de la Tragamée, apparemment, c'est pas vrai. Genre, c'est fake news. Mais en fait, ouais, la police, elle est en train de le garder parce que, apparemment, c'est fait avec beaucoup de soin. Donc, la fille, c'était la moitié, tu vois. Donc, donc il y a beaucoup de là, franchement on essaye de voir comment est-ce que le tribunal électoral au Brésil peut jouer avec le fait que on peut interdire les gens, en tout cas au moins interdire Bolsonaro de dire des fausses nouvelles en fait, hein, parce que même lui il va à la télé, il raconte des choses qui sont pas vraies, donc au moins que lui soit puni pour ça, je sais pas.
Ok. Et ben, du coup, peut-être que tu nous en diras plus vendredi prochain, du coup, sur la suite et avec ce qui a pu se passer dimanche.
En fait, là, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est que la gauche, elle essaye de avoir des votes. Et il y a des effets très intéressants. Et peut-être ça fait un espoir pour la suite. Genre,
il se réveille un peu, quoi.
Ouais, que la gauche se réveille un peu et peut-être qu'on a parlé avec les peuples communistes. Comme elle le faisait avant, le travail de base, il était fait avant. C'est pour ça que les gens votaient pour les PT, c'est parce qu'il y avait un travail de base. Donc j'espère que.
que finalement, ça réveille le PT, quoi.
Okay. Oui, mais c'est pas la bonne façon de réveiller. Non, mais bon, non, ça réveille, c'est bien. Mais j'espère qu'on n'a pas besoin d'y arriver jusqu'au bout, d'avoir un président d'extrême droite. Même si il gagne pas, ça va être très difficile déjà. Donc, s'il gagne, ça va. Ouais, c'est pas. J'ai très peur pour ça. Mais bon.
Ok.
Mais oui, on peut parler vendredi prochain.
Et ben, cool.
Et oui, on croise les doigts pour les camarades brésiliens et brésiliens. On a un peu peur pour avec elles et eux, mais des fois, on a des bonnes nouvelles. Alors on va terminer ce Canu Info sur une bonne nouvelle. Et oui, puisqu'à Berlin, le mouvement Fuck Off Google a été plus fort que Google. Donc Google souhaitait en effet installer un campus privé dans le quartier berlinois de Kreuzberg. Et sous la pression de la population, la multinationale a dû renoncer. C'est une lutte urbaine qui gagne, ça arrive pas tous les jours et ça fait sacrément plaisir. Alors on revient un peu là-dessus. Alors je reprends notamment des informations du Monde. Autour de l'ancienne station électrique Umspannwerk, les témoignages de la lutte engagée au cours des derniers mois sont encore visibles. On peut lire « Google dégage sur une porte d'immeuble »,« Google n'est pas un bon voisin sur une affiche » ou encore « Réunion anti-Google chaque deuxième dimanche du mois sur la devanture d'une épicerie ». Alors désormais, tout ça appartient au passé. En effet, mercredi 24 octobre, c'était il y a 2 jours, Google a annoncé qu'il renonçait à installer un campus au cœur de Berlin. En novembre 2016, pourtant, le groupe américain avait fait savoir qu'il souhaitait créer dans la capitale allemande un lieu consacré aux rencontres, aux événements et à la formation professionnelle dans le secteur du numérique, lieu comme il en possède déjà à Londres, à Madrid, à Sao Paulo, à Séoul ou encore à Tel Aviv ou Varsovie. vie. L'adresse de ce futur campus, dont l'ouverture était prévue début 2019, c'était effectivement l'ancienne station électrique Umspannwerk, un vieux bâtiment industriel en briques rouges situé au bord du canal de Kreuzberg. Kreuzberg, c'est un quartier de l'ancien Berlin-Ouest, autrefois très populaire et aujourd'hui en voie de gentrification avancée, mais où vivent encore de nombreux militants et militantes anticapitalistes. Et c'est précisément elles et eux qui ont fait avorter ce projet. En apprenant que Google avait loué 3000 m² dans ce vaste quadrilatère qui abrite déjà les espaces de coworking pour des startups, ainsi que des cafés et un restaurant branché, plusieurs associations locales, qui sont engagées contre la spéculation immobilière, la hausse des loyers et les expulsions de familles aux revenus modestes sont montées au front. Et donc de ces associations est né un collectif Fuck Off Google qui s'est dénoncé pour, je cite, « dénoncer l'installation d'une société qui pratique l'évasion fiscale et rêve d'un futur dystopique ». Le 7 septembre, les choses se sont un petit peu tendues, les derniers mois, puisque la police est carrément intervenue pour déloger les camarades, une cinquantaine de manifestants et de manifestantes qui s'étaient carrément introduits dans le maniement, dans le bâtiment, muni notamment d'une banderole Google Go Home. Et donc, aujourd'hui, une association de riverains se félicite du fait que protester sert à quelque chose, puisque Google se retire, que Fuck Off Google est très content, puisque une capitulation, disent-ils, a salué le départ. Et puis, le quotidien de gauche, dit Tageszeitung, se félicite aussi. Et une interprétation des faits plutôt positive par nos camarades, mais que Google s'empresse évidemment de contrecarrer. Alors, Ralf Bremer, qui est le porte-parole de Google à Berlin, s'est empressé de réagir dans le quotidien Berliner Zeitung, qui est plutôt à droite, celui-là, en disant « Nous ne laissons pas les protestataires nous dicter ce que nous faisons. » Et non, ça ne devrait pas arriver. Il a aussi précisé que son entreprise n'avait pas l'intention de renoncer à financer le développement de start-up dans la capitale allemande, mais pas dans le cadre d'un campus, comme ça avait été prévu à l'origine. Manifestement soucieux de soigner son image, le géant américain s'est toutefois engagé à continuer de payer, c'est quand même aussi une victoire, pour les 5 prochaines années, le loyer des 3000 m² qu'il loue à Kreuzberg, donc c'est quand même 480 000 euros par an, donc 2,5 millions d'euros sur 5 ans, qui seront désormais occupés par une association à but non lucratif, qui est engagée dans l'aide aux migrantes et aux migrants et aussi aux pauvres du quartier. Bon, donc Google dit qu'il s'en va pas à cause des activistes. Le parti de droite, lui, dit que c'est un signal inquiétant. Hein. Les conservateurs, notamment les proches d'Angela Merkel, se disent que, attention, ça envoie un message difficile qui est que Berlin est hostile aux entrepreneurs. Nous, on serait plutôt tendance à se réjouir. Et évidemment que tout le monde est hostile aux entrepreneurs, bande de cons. Évidemment, on est aussi hostile aux entrepreneurs à Lyon aussi. Et donc, on peut quand même se féliciter ce genre de choses. Bravo aux camarades berlinois et berlinoises qui ont fait échouer les projets de Google. Et comme ils disent, fuck off Google.
On fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Oh là là, mince, j'avais une blague, mais vas-y. Alors moi, je fais ma blague et après, toi, tu fais le truc. Alors, on n'a pas réussi à programmer la grève générale ni la révolution sociale et libertaire pour la semaine prochaine. Du coup, on n'a qu'une seule info pour dimanche.
Jingle, tellement c'est bien comme blague.
Ouais, mais c'est merde, c'est un peu triste. Moi, je l'étais. Ouais, je sais pas. Bon, on fait quoi dimanche?
Bon, bah, dimanche, en fait, il y a un truc incroyable. C'est le lancement d'un nouveau ciné-club qui se passe à l'Amicale au 31 rue Sébastien Griff. Et dites-vous que c'est un ciné-club qui aura lieu tous les derniers dimanches du mois à partir de ce dimanche. Donc, c'est une initiative fort sympathique, on salue. Et qu'est-ce qui se passe pour cette première soirée? C'est le documentaire Tranquille sous le pont qui va être projeté. Bon, c'est un documentaire qui a été fait par Laurent Reyes et Kevin Chouchounov qui seront même présents lors de la soirée. Et pour vous donner un peu envie de voir ce documentaire, je vous lis l'extrait super synthétique. Julio, Elvis et Durim sont 3 jeunes adultes albanais venus demander l'asile politique à Lyon. Du pont Kitchener à l'ancien centre de formation où ils sont hébergés, on suit leur trajectoire au fil de rencontres et des boires de chacun. Du coup, c'est un film qui va être projeté à l'Amicale au 31 rue Sébastien Gris, Folie au 7e, dimanche. Ouverture des portes à 17h et projection à 19h. Il y aura du manger super bon, fait maison, végétarien sur place.
J'ai vu le film, il est cher bien en vrai. Hein.
Bonjour, je m'appelle Lily et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la plus nulle des radios.
Et oui, Radio Canu, la plus trentenaire des radios surtout. Et alors cette semaine, ACAB, ça veut dire les abrutis contrôlent les anticapitalistes à Bellecour. La semaine prochaine.
C'était Canu Info, c'est tout de suite, c'est quoi
c'est... Non.